travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Tout à l'heure, la Grèce antique va vous dire: j'ai cherché la vérité et j'ai trouvé la justice et la liberté. J'ai inventé l'indépendance de l'art et de l'esprit. C'est un langage simple, mais nous l'entendons encore comme un langage immortel.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. De cette formule fameuse de Paul Valéry qui date de 1919, on pourrait facilement, ces temps-ci, proposer une variante: nous autres, démocratie, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Et cette angoisse grandissante incite impérieusement à un retour aux sources. Elle incite à revenir à la Grèce antique, puisqu'on lui attribue communément l'invention de ce régime de gouvernement, inconnu jusqu'à elle, et qui nous demeure précieux comme la prunelle de nos yeux. Mon invité, Patrice Brun, professeur à l'université de Bordeaux-Montaigne, s'emploie dans un livre tonique à reprendre cette histoire à nouveaux frais. Il le fait à partir de nos convictions contemporaines, de nos interrogations et de nos nouvelles exigences. Il a beau être un grand amoureux de la Grèce antique, il ne s'en attache pas moins à pourfendre un bon nombre des convictions qu'on nous a inculquées notamment sur l'Athènes de la grande époque, un bon nombre des clichés répétés de génération en génération afin de nourrir notre admiration et notre fidélité. Que l'on parle de la guerre, de la religion, de l'impérialisme, de l'esclavage ou encore de la situation des femmes, on est conduit par Patrice Brun à remettre en cause diverses images toutes faites qui ont nourri depuis des siècles, en Occident, bien des fantasmes et souvent bien des mésusages d'une mémoire. Comme toujours, le présent s'impose assez brutalement au passé. Faut-il s'affliger de cette sévérité rétrospective? Vous allez vous-même en juger. Mais peut-être au contraire, penserez-vous dans une heure d'ici que cette nouvelle lecture ne fait qu'éclairer par contraste, en dépit de tout, une fois admises les parts d'ombre, ce qui demeure de fécond, d'inspirant, d'unique, dans un héritage qui est assez riche pour supporter d'être examiné dans toute son humaine fragilité. Et d'abord, Périclès. Périclès en 430.
Notre régime politique ne se propose pas pour modèle les lois d'autrui. Et nous sommes nous-mêmes des exemples plutôt que des imitateurs. Pour le nom, comme les choses dépendent non pas du petit nombre, mais de la majorité, c'est une démocratie. S'agit-il de ce qui revient à chacun? La loi, elle, fait à tous, pour leurs différents privés, la part égale, tandis que pour les titres, si l'on se distingue en quelques domaines, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais le mérite qui vous fait accéder aux honneurs. Nous pratiquons la liberté, non seulement dans notre conduite d'ordre politique, mais pour tout ce qui est suspicion réciproque dans la vie quotidienne. Nous n'avons pas de colère envers notre prochain s'il agit à sa fantaisie, et nous ne recourons pas à des vexations qui, même sans causer de dommages, se présentent au dehors comme blessantes. Malgré cette tolérance qui régit nos rapports privés dans le domaine public, la crainte nous retient avant tout de rien faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois, surtout à celles qui fournissent un appui aux victimes de l'injustice ou qui, sans être loi écrite, comporte pour sanction une honte indiscutée. Nous nous distinguons également de nos adversaires par notre façon de nous préparer à la pratique de la guerre. Notre ville, en effet, est ouverte à tous, et il n'arrive jamais que, par des expulsions d'étrangers, nous interdisions à quiconque une étude ou un spectacle qui, en n'étant pas caché, puisse être vu d'un ennemi et lui être utile, car notre confiance se fonde peu sur les préparatifs et les stratagèmes, mais plutôt sur la vaillance que nous puisons en nous-mêmes au moment d'agir. Et pour l'éducation, contrairement à ces gens qui établissent dès la jeunesse un entraînement pénible pour atteindre au courage, nous, avec notre vie sans contrainte, nous affrontons au moins aussi bien des dangers équivalents.
Patrice Brun, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, j'en suis sûr, reconnu un extrait illustrissime de l'oraison funèbre prononcée par Périclès dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, un discours probablement assez largement reconstruit, mais peu importe, lu ici par Jean-Pierre Leroux dans les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff. On était sur France Culture le 18 décembre 1995. Quand on lit ce texte, on a le sentiment que tous les motifs sont là pour admirer presque sans commentaire.
Vous aurez remarqué qu'il y a deux parties dans ce discours. La première partie est un éloge de la démocratie, alors que la seconde dit clairement, contrairement à ces gens, quand il parle d'éducation notamment et de la guerre, ces gens-là sont les Spartiates. Donc on a là, je dirais, une double analyse qui est à la fois un éloge de la cité et une critique très virulente de ce qu'est Sparte. Alors il faut prendre ce texte pour ce qu'il est, c'est-à-dire celui d'un, on va dire, d'un homme politique. Je dirais pas qu'il cherche à défendre son bilan, mais enfin, si on veut utiliser des termes un petit peu contemporains, on dirait que effectivement, il a tendance à idéaliser son Athènes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce texte-là a été à la base d'une forme de reconstruction de ce qu'a été l'histoire grecque à une certaine époque, avec une idéalisation absolue d'Athènes.
Alors nous allons le déconstruire, ce mythe, tout en conservant, ce sera, je pense, la tonalité de cette émission, un grand nombre de motifs d'admiration qui demeurent. On comprend mieux en lisant pourquoi Victor Hugo pouvait dire « Le monde naît, Homère chante, c'est l'oiseau de cette aurore ».
Exactement. Et alors, déconstruire ne signifie pas détruire. Et c'est la raison pour laquelle une analyse à nouveau frais, comme vous l'avez dit au début, ou je dirais avec un recul à la fois, je dirais, historique et historiographique sur le sujet, permet de voir Athènes et de voir le monde grec, je dirais pas sous un nouveau jour, mais sous un jour probablement plus humain et un petit peu débarrassé d'oripeaux idéologiques qui sont très prégnants dans le texte même de l'oraison funèbre de Périclès.
Avec concomitamment, vous le dites bien aussi dans votre livre, le danger qu'il peut y avoir à juger toute la complexité d'une société qui est vieille de 2 millénaires et demi, en lui appliquant nos critères d'aujourd'hui. Pourtant, cet anachronisme est également stimulant et fécond.
Ah, il est très fécond. L'anachronisme est fécond. Je pense par exemple à Nicole Leroux ou Jacques Rancière, qui vante l'anachronisme, parce que ça permet d'aller d'une temporalité à une autre. Et on peut revenir à la fois vers le présent et vers le passé, en réinterrogeant les textes anciens, voir en quoi ils peuvent nous être utiles dans le présent. Et effectivement, je dirais, l'intérêt de parler de l'histoire grecque, c'est que c'est un monde perdu. Et par contre, les sources, notamment les sources littéraires, qui ont été conservées de la Grèce du 5e et du 4e siècle, même de toutes les époques, sont d'une telle richesse que finalement, on s'aperçoit que les Grecs ont eu les mêmes interrogations que nous pouvons avoir. Et alors, dans le texte qui a été lu, le texte de Périclès, on voit bien que la question de la démocratie ne se pose évidemment pas dans les mêmes termes qu'il se pose maintenant, mais on se trouve, je dirais, en permanence confronté aux mêmes difficultés internes à la démocratie, mais aussi aux difficultés entre la démocratie et des régimes plus autoritaires. Et on voit à quel point, évidemment, d'un point de vue ultra-contemporain, ces questions entre la démocratie et les régimes autoritaires sont très prégnantes.
La dialectique entre liberté et égalité qu'évoque Périclès, elle est évidemment tout à fait actuelle.
Mais justement, et là, si on part, je dirais, du texte de Périclès, il ne faut jamais oublier que l'égalité dont parle Périclès, c'est une égalité limitée, on va dire, à moins de 10% de la population totale de la cité athénienne. On ne parle pas des esclaves. On ne parle pas des étrangers, on ne parle pas des femmes. Donc, je crois qu'il ne faut pas évacuer tous ces problèmes-là, mais il faut toujours les avoir en tête pour ne pas voir dans la démocratie athénienne le modèle absolu qui convient à notre monde d'aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire que le principe est intact et que la pratique est largement déviante à nos yeux par rapport à ce principe même ?
Alors, dire que la pratique est déviante, ça ne peut être qu'à nos yeux, en effet. Ça peut être qu'à nos yeux, parce que effectivement, juger la démocratie athénienne comme certains adeptes, maintenant, peuvent le faire uniquement en parlant de l'esclavage, de la colonisation ou de la place des femmes. Alors là, on tombe, de manière honteuse dans l'anachronisme le plus absolu. Effectivement, si on veut vraiment juger, et l'historien n'a pas vraiment à juger.
Si on explique, c'est déjà bien.
Bah déjà, c'est bien, oui. Si on arrive à expliquer, mais expliquer le monde grec avec nos valeurs d'aujourd'hui, aboutit à une impasse. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours maintenir une balance équilibrée entre ce que nous disent les textes, ce qu'est la pratique des Grecs, et ce qu'est aussi notre pensée contemporaine.
Avec de surcroît un regard sur la manière dont nos prédécesseurs, dans l'intervalle en particulier, au cours des derniers siècles, la façon dont ils ont pu considérer à leur manière cette époque essentielle de l'histoire de l'humanité. Je pense, par exemple, vous le citez beaucoup, à Renan dans sa fameuse prière sur l'Acropole à la fin du 19e siècle, que nous avons tous appris, vous le dites, grâce au manuel de la gare des Michards en particulier. Il est à cet égard d'un enthousiasme qui peut paraître aujourd'hui un peu déçu. Je vous demande de lire, si vous voulez bien, un extrait.
Il y a un lieu où la perfection existe. Il n'y en a pas deux. C'est celui-là. Je n'avais jamais rien imaginé de pareil. C'était l'idéal cristallisé en marbre pentélique qui se montrait à moi. Jusque-là, j'avais cru que la perfection n'est pas de ce monde. Une seule révélation me paraissait se rapprocher de l'absolu. Depuis longtemps, je ne croyais plus au miracle dans le sens propre du mot. Cependant, la destinée unique du peuple juif, aboutissant à Jésus et au christianisme, m'apparaissait comme quelque chose de tout à fait à part. Or, voici qu'à côté du miracle juif, venait se placer pour moi le miracle grec. Une chose qui n'a existé qu'une fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se reverra plus, mais dont l'effet durera éternellement. Je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tâche locale ou nationale.
Cette idée d'éternité est au cœur de notre conversation, Patrice Brun. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impérissable, quelque chose d'éternel dans cette vision un peu binaire qu'avaient les Grecs entre les barbares et eux-mêmes?
Quand on lit Thucydide, on s'aperçoit que Thucydide dit qu'il écrit non pas pour le plaisir du moment, mais pour toujours. Et ce que dit Périclès aussi, c'est aussi d'une certaine manière l'éloge de l'éternité d'Athènes. Dans un autre passage, Périclès dit « Sans doute un jour, notre cité connaîtra des difficultés. Il y aura une forme de déclin qui s'opérera. Mais ce que nous faisons maintenant restera pour l'éternité. » Il y a donc cette idée, si vous voulez, quand on parle de Grèce éternelle, on s'aperçoit qu'on puise déjà un certain nombre de notions qui sont déjà celles des Athéniens du 5e siècle.
Donc il n'aurait pas été mécontent de constater que les siècles ultérieurs ont rendu hommage à ce qui leur paraissait éternel dans leur choix politique.
Et peut-être que Périclès serait heureux de nous entendre aujourd'hui.
Impossible, mais on peut lui dédier cette émission.
Alors, je n'irai pas jusque-là. J'irai dans une démocratie. La pire des choses, c'est de trop la personnaliser. Le livre récent de Vincent Azoulay sur la biographie de Périclès le montre bien.
Je l'ai reçu à ce propos pour une émission éclairante.
Et on voit à quel point il montre les difficultés qu'une cité démocratique a avec ce que l'on appelle un grand homme.
Il y a une idée qui est proche de cette idée d'éternité. C'est l'idée de la fragilité, en réalité, et en particulier celle du déclin. Vous montrez très très bien à quel point c'est une conception, c'est une inquiétude, c'est une angoisse prégnante, pas seulement chez les Grecs, on le trouve aussi chez les Latins. C'était mieux avant, et ça va se dégrader, la dégénérescence, etc. Vous distinguez constamment l'émergence de cette inquiétude dans les textes que vous mettez en valeur, Patrice Brun.
Alors, la plupart des textes, effectivement, enfin beaucoup de textes, propose une analyse quasi médicale du corps social. La cité, les constitutions, d'ailleurs, Platon le dit dans la République, et puis il le dit également dans les lois, les constitutions, même si elles sont parfaites, ne peuvent pas durer éternellement. Elles s'affaiblissent, et on a une vision, presque hippocratique de ce qu'est la société.
Au sens d'Hippocrate, le médecin.
Ou d'ailleurs, Hippocrate en parle, justement, du déclin du corps. Et on voit à quel point ça peut être intéressant, parce que cette notion de déclin, on la retrouve, je dirais, prégnante dans la tragédie, on la retrouve dans l'histoire, bien entendu. On le voit beaucoup plus tard, quelques siècles plus tard, avec Polybe, qui montre comment et pourquoi Rome s'est renforcée, alors que les constitutions grecques ont été trop faibles, finalement, pour répondre à la puissance de Rome et surtout à sa force constitutionnelle.
Polybe, c'est l'écrivain grec de l'histoire de Rome.
C'est lui qui a fait, je dirais, et qui nous est très utile aussi pour toute l'histoire hellénistique, c'est-à-dire après Alexandre, mais qui, dont le but, effectivement, est de montrer l'émergence de Rome.
Cette idée de déclin, on la retrouve aujourd'hui, évidemment. Des auteurs aussi intéressants et stimulants que Lucien Gerfagnon ou que Michel Serres en ont parlé pour aujourd'hui. Il faut se méfier de ça à mesure que l'âge arrive. Caton l'Ancien, c'est pas à Rome de gémir sur la dégradation des mœurs, et Cicéron aussi.
Eh ben, on connaît l'expression célèbre de Cicéron, ô tempora, ô mores.
Quelle époque.
Quelle mœurs. Bon, effectivement, ça fait partie. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'histoire grecque, et je dirais, est l'affaiblissement progressif des puissances grecques face à Rome, mais déjà d'Athènes face à Sparte, puis de Sparte face à Thèbes, et puis de Thèbes face aux Macédoniens, ont été repris par, je dirais, les historiens de la Grèce, avec l'idée, finalement, qu'il existait un âge d'or. Qu'il existait. Alors, précisément, cet âge d'or, c'est celui de Périclès. Hein. Évidemment, il y a là une forme, je dirais, de fantasme, où un âge d'or est peuplé d'images de gloire d'un passé disparu.
Le siècle qui a suivi celui de Périclès, c'est-à-dire le IVe siècle, voit Démosthène dire ceci. « Ne voit-on pas à quel point tout s'est modifié, à quel point le présent est peu semblable au passé, et que c'est dans la guerre qu'il y a eu le plus de changements et de progrès. Aujourd'hui, vous le voyez sans doute, les traîtres ont presque tout aboli, et ni les armées en ligne, ni les batailles rangées ne changent rien. » À cela. Alors là, il parle de la guerre, mais c'est un propos qu'on trouve ailleurs développé pour d'autres aspects de la vie politique. Et quand on étudie l'histoire de la démocratie, effectivement, on a presque le sentiment qu'à tout moment, non seulement on l'a dit fragile, mais on l'a dit destiné à périr.
Destiné à périr. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, lorsque Démosthène parle de la décadence, enfin, du déclin d'Athènes, en même temps, c'est l'époque où fleurit Platon, où fleurit Aristote. Enfin, je veux dire, on a connu de pires époques en termes de déclin. Donc, effectivement, ce que Démosthène oublie de signaler ici, c'est qu'il compare les difficultés militaires d'Athènes au IVe siècle avec la grandeur militaire d'Athènes un siècle plus tôt.
Qui est un peu aux marges par rapport à la réflexion sur la démocratie.
Eh bien voilà, il ne parle pas vraiment ici de démocratie, parce que finalement, au IVe siècle, la démocratie athénienne est d'une remarquable stabilité. D'une remarquable stabilité, alors qu'au Ve siècle, elle a été mise en... je dirais, en difficulté, en raison de la guerre du Péloponnèse, avec deux coups d'État, des oligarques, en 411 et en 404. Les notions de déclin sont quand même extraordinairement subjectives. Et Démosthène nous montre à quel point, pour lui, le déclin, c'est le déclin de la force militaire d'Athènes.
Il y a un grand auteur, une autrice, qui a dominé les études grecques en France, qui a beaucoup compté et pesé, qui est Jacqueline de Romilly, que vous considérez avec un mélange de respect et de distance. Vous allez nous expliquer ça après l'avoir écouté. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La grandeur de l'homme au siècle de Périclès ». Écoutons sa voix. C'est un entretien qui a été diffusé à la télévision le 24 janvier 1977. Jacqueline de Romilly.
La familiarité avec la Grèce ancienne peut encore aujourd'hui et surtout aujourd'hui être d'une grande utilité dans notre monde. La Grèce antique vivait une vie dans laquelle la politique se mêlait à tout, était primordiale. Je pense que ça, c'est un des points par où actuellement nous nous rapprochons d'elle. Ce qui nous émerveille, c'est cet élan intérieur qui fait que très rapidement la Grèce est passée d'un état de royauté primitive, de pensée archaïque, mythique, de choses proches des états que nous appellerions primitifs, à quoi ? À la démocratie, au rationnel, à la science, à la médecine, à l'histoire, à la philosophie. C'est cet élan qui offre un champ d'expérience privilégié, ça nous ramène à un moment où la raison, le sacré, tout ça était encore allié, et ça nous ramène à ce mouvement de dynamisme intérieur dont, en réalité, toute notre civilisation occidentale est partie. C'est pas un modèle, c'est un modèle de dynamisme intérieur.
Patrice Brun, comment dialogueriez-vous post-mortem avec Jacqueline de Romilly, ici présente ?
Eh bien, là où je serais, je dirais, je me sortirais un petit peu de son analyse propre, ça serait de dire qu'il n'existe pas une démocratie. Jacqueline de Romilly parle ici de la démocratie comme si c'était un régime, je dirais, absolu, qui serait né un jour et qui serait resté immuable.
Un être de raison.
Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela parce que la démocratie a évolué. Et même au 5e siècle, si on se limite au 5e siècle, elle a beaucoup évolué. On peut dire, si on commence au début du 5e siècle, on peut dire qu'on est, dans un premier temps, une démocratie qui est sous la domination de l'aréopage, c'est-à-dire une assemblée d'anciens magistrats élus, assez conservatrices, hein, une assemblée plutôt conservatrice. Et puis, à partir du milieu du siècle, du milieu du 5e siècle, on peut parler de démocratie péricléenne. Un élargissement à l'ensemble du peuple de la possibilité d'être tiré au sort ou d'être élu à toutes les magistratures, mais où, on veut dire, pendant un peu plus de 20 ans, Périclès, par son aura, par ce qu'on peut appeler son charisme, son autorité, et ses qualités en fait, est le principal personnage de la cité. Où, en fait, à peu près rien ne peut se faire sans lui. Et puis après sa mort...
C'est-à-dire que c'est la question, finalement, de l'émergence en démocratie d'un leader chargé de l'exécutif.
C'est
ça
grande
résonner un peu au cœur de nos débats contemporains sur les institutions de la Ve République.
Absolument. Et on voit très bien à quel point, je dirais, les questions qui actuellement se posent sur la démocratie française sont, je dirais, pas de nature péricléenne, certains diraient jupitérienne, hein, mais on voit à quel point, finalement, la place du chef dans une démocratie, où en principe c'est le peuple qui décide, pose problème.
Et c'est déjà la question que l'on se pose à l'époque de la combinaison possible entre l'expression fidèle des sensibilités populaires et la nécessité d'une permanence d'un pouvoir exécutif, en particulier en période de tension internationale.
Effectivement, mais c'est aussi, je dirais, toute la difficulté, l'équilibre à trouver entre, je dirais, la liberté et l'efficacité. Qu'est-ce que la liberté de tous sans efficacité absolue? Et qu'est-ce que l'efficacité sans liberté? Donc, la démocratie, c'est ça. Et pour en revenir donc à la démocratie du 5e siècle, à partir des années 420, se met en place ce qu'on a appelé une démocratie radicale. Alors, il faut entendre ce que l'on appelle démocratie radicale, parce que c'est un terme qui évidemment, actuellement, est, je dirais pas galvaudé, mais enfin utilisé un petit peu en dehors de son analyse principale, et notamment de son étymologie. Radix, en latin, c'est la racine. Donc, en fait, ce qu'on appelle démocratie radicale aujourd'hui, c'est une sorte de démocratie des origines, de démocratie un petit peu idéale, débarrassée, je dirais, de tous les problèmes qu'il peut y avoir, de toutes sortes de scories liées précisément à la présence d'une personnalité importante. Et on voit ça à la fin du 5e siècle et durant tout le 4e siècle, qui est la période de ce qu'on appelle souvent la démocratie radicale, où on voit que, d'abord, il n'existe quasiment plus d'un seul chef. Il se succède et le pouvoir est beaucoup plus éclaté à Athènes entre diverses personnes.
Est-ce qu'on pourrait dire, pour s'amuser un peu, qu'on a une rétrogradation de la 5e à la 4e République?
Alors, je dirais pas jusque-là quand même.
Je m'en doutais.
Je dirais pas jusque-là. Mais on voit quand même qu'en même temps, le pouvoir du peuple ne cesse de grandir. C'est-à-dire que si on peut imaginer, je parle pas de ses représentants. Parce que le 4e République, à la limite, pourrait être, je dirais, un équilibre entre les représentants du peuple et puis le pouvoir exécutif. Pour le 4e siècle athénien, on a plutôt l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait entre les hommes politiques, qui sont nombreux à la tribune, et puis le peuple qui dirige un petit peu tout ça. Et si vous voulez, le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est Démosthène. Démosthène qui passe pour être l'homme politique le plus influent du 4e siècle, et qui en fait, pendant quelques années seulement, a eu une véritable influence à l'Assemblée du peuple. Le reste du temps, il a été très concurrencé par d'autres personnalités politiques qui lui ont mené souvent la vie dure.
Nous avions fait, naguère, Patrice Brun, une émission sur Démosthène ensemble. Alors avant de quitter la vision un peu idéalisée d'Athènes et de plonger plus concrètement sur les pratiques quotidiennes, une dernière citation qui s'imposait, André Malraux, avec un souffle, certains diront une grandiloquence, une éloquence tout à fait spécifique que vous allez reconnaître. Il s'exprimait devant l'Acropole d'Athènes le 28 mai 1959, juste après le retour du général de Gaulle au pouvoir. Il était à ce moment-là, depuis quelques mois, ministre d'État chargé des affaires culturelles. Et cet hommage à la Grèce mérite d'être restitué. Malraux, Athènes, mai 1959. C'est à l'occasion de l'installation d'un système de son et lumière sur l'Acropole.
Arraché à la vie de la terre. Salut, peuple d'Athènes, la voix inoubliée qui, depuis qu'elle s'est élevée ici, hante la mémoire des hommes. Si toutes choses sont vouées au déclin, dites du moins de nous, siècle futur, que nous avons construit la cité la plus célèbre et la plus heureuse. Cet appel de Périclès eût été inintelligible à l'Orient ivre d'éternité, qui entourait la Grèce. Nul n'avait jusqu'alors parlé à l'avenir. Les maints siècles l'ont entendu, mais cette nuit, ces paroles s'entendront depuis l'Amérique jusqu'au Japon. La première civilisation mondiale a commencé. Tout à l'heure, la Grèce antique va vous dire: j'ai cherché la vérité et j'ai trouvé la justice et la liberté. J'ai inventé l'indépendance de l'art et de l'esprit. J'ai dressé pour la première fois en face de ses dieux l'homme prosterné partout depuis 4 millénaires. Et du même coup, je l'ai dressé en face du despote. C'est un langage simple, mais nous l'entendons encore comme un langage immortel. Je parle de la nation grecque, du peuple auquel l'Acropole s'adresse avant de s'adresser à tous les autres, mais qui dédie à son avenir toutes les incarnations de son génie qui rayonnèrent tour à tour sur l'Occident. Le monde prométhéen de Delphes et le monde olympien d'Athènes. Enfin, pendant tant d'années de fanatisme, le seul fanatisme de la liberté.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
André Malraux, il a un ton particulier. Est-ce qu'il vous paraît parler juste d'un certain nombre de choses au premier degré de ce que fut la Grèce et au second, la manière dont elle a été considérée, vécue, mythifiée par la suite?
Alors on voit qu'il reprend en fait le discours de Périclès que nous avons écouté au début. On voit à quel point, je dirais, ce discours de Périclès est là une matrice de la manière dont nous représentons la Grèce. Au-delà, évidemment, de cette éloquence très spécifique d'André Malraux, on a vraiment l'impression que on peut venir en Grèce un peu poussé par les fantômes et les mirages du passé. Et il y a là, je dirais, une manière de décrire, d'idéaliser la Grèce et Athènes, qui est tout à fait remarquable. Et en même temps, on ne peut pas ne pas être saisi par les mots qui sont prononcés. Parce qu'il faut voir, ce discours est prononcé sur la colline de la Pnyx, avec en arrière-plan l'Acropole, c'est au moment, comme on l'avait dit, au moment où le son et lumière de l'Acropole est mis en place. Même endroit, exactement au même endroit, où un demi-siècle plus tard, plus 60 ans plus tard, Emmanuel Macron a pris la parole.
On y viendra.
Eh bien, est-ce que c'est le lieu qui pousse à cette forme de grandiloquence? Est-ce que finalement on n'est pas pris par le décor? Je pense qu'il doit y avoir, de la part de ceux qui prennent la parole devant l'Acropole, une sorte d'enthousiasme intérieur qui fait dire de très belles choses, même si historiquement elles sont peut-être un peu discutables.
Et en même temps sur un ton qui n'est pas complètement infidèle à ce que on a pu voir à l'époque de la démocratie grecque que nous considérons ce matin, Patrice Brun, c'est-à-dire l'importance de l'éloquence qui n'est pas semblable dans beaucoup d'autres régimes. Quand il y a des tyrans, on les écoute, mais cette importance du parler, de la saisie de la foule, est centrale, et peut-être est-ce vrai encore aujourd'hui, en dépit des moyens modernes de la communication.
On le voit actuellement, tout à fait, on le voit, l'importance du discours. Et les Athéniens, les Grecs en tout cas, je préfère dire les Grecs, les Athéniens l'avaient compris, parce que le discours, ce n'est pas seulement bien parler. Les Grecs avaient un mot pour désigner le discours, c'est le logos. Et le logos, c'est effectivement une bonne qualité d'éloquence. Et toute une série d'historiettes montrent à quel point Démosthène, par exemple, qui passe pour être le plus grand des orateurs athéniens, avait pris des leçons. On connaît l'historiette du caillou dans la bouche, même s'il faut l'évacuer, évidemment.
Devant la mer?
Oui, ou alors sur le souffle des vagues. Je ne sais pas si au Pirée il y a énormément de vagues, mais enfin bon, c'est pas très grave. Mais non seulement il y a la qualité oratoire, mais il y a aussi la qualité de l'argumentation. Et le logos, c'est ça. Et on le voit d'ailleurs, ça commence très tôt, on le voit chez Homère. On voit quand, par exemple, Agamemnon s'adresse à ses pères pour montrer qu'il faut rester à Troie et qu'il faut continuer à combattre. Il utilise un discours. Ce discours est à la fois argumenté et de qualité oratoire. Donc en fait, c'est moins athénien que grec. Effectivement, l'éloquence joue un rôle très important et on sait très bien qu'il y a eu, dès le 5e siècle, des professeurs de rhétorique.
On lit dans Euripide, les suppliantes, Thésée qui s'exprime de la sorte, c'est le roi légendaire d'Athènes. Quant à la liberté, elle est dans ses mots, quelqu'un veut-il présenter devant tous un projet utile à la cité ? Ensuite, qui le désire peut briller et qui ne le veut pas peut se taire. Et tout ce qu'on dit des débuts de Démosthène va dans le même sens. Il est tout intimidé. C'est un extrait de Plutarque qui a tellement compté dans la mémoire de cette période, dans sa vie de Démosthène, où il explique que le tohu-bohu de l'assemblée du peuple avait complètement désorienté et qu'il s'abandonnait lui-même par timidité ou mollesse à un refus d'affronter hardiment la multitude et d'entraîner aux luttes de la tribune son corps qu'il laissait s'étioler par nonchalance. Ensuite, il a adressé son corps.
Oui, certainement. Même s'il ne faut sans doute pas prendre au premier degré ce qu'écrit Plutarque, puisqu'il y a là une volonté de montrer à quel point le fait de travailler avec des professeurs est utile et même indispensable pour qui espère gravir les échelons à l'intérieur de sa cité.
Vous ne le niez pas?
Ah, je ne le nie pas. Ça, ça serait bien.
Y compris aujourd'hui, j'espère.
Et surtout aujourd'hui. Mais on a, si vous voulez, la définition de ce qu'est, pour les Grecs, la véritable démocratie. C'est qui veut parler, peut parler. C'est que les Grecs avaient plusieurs mots pour le désigner ça. C'était l'iségoria, c'est-à-dire le fait de la parole égale pour tous. La possibilité pour chacun de s'exprimer. Non pas en temps de parole, mais en possibilité, en potentialité de parole. Et puis il y avait aussi ce qu'on appelle la parésia, c'est-à-dire la possibilité de dire tout ce que l'on pense, y compris aux gouvernants.
Quitte à être chahuté par la foule.
Ah oui, et il faut bien imaginer, c'est que c'est extrêmement compliqué pour nous de voir, parce qu'il faut aller sur la Pnyxe, c'est là où se réunissaient les Athéniens, et voir à quel point il est difficile de s'exprimer en plein air. Lorsque vous avez plusieurs milliers de personnes qui vous écoutent, sans micro.
On connaît ça jusqu'à la Troisième République, quand voilà. On voit Jaurès s'exprimer contre la loi de Troyes en 1913 auprès Saint-Gervais, devant des milliers de gens de la même façon. Là, il y a une continuité et une rupture avec aujourd'hui, à cause du micro qui est devant nous.
Ben, par exemple, on le voit à quel point, je dirais, le micro, comme vous l'avez dit, a tout changé. Et on voit aussi, un certain nombre d'études ont pu être faites. Parce que les Athéniens ne sont pas un peuple de philosophes. On a un petit peu l'impression que sont tous des élèves de Platon ou d'Aristote. En réalité, les Athéniens sont... Il y a un tohu-bohu, un chahut absolument incroyable à l'Assemblée. D'ailleurs, parfois, un tohu-bohu organisé par des factions. Avec, par exemple, pro-démosthénienne ou anti-démosthénienne, si on utilise l'exemple de cet orateur. On voit à quel point c'était extrêmement difficile et... Nous avons un certain nombre de textes qui nous disent que, au bout d'un certain temps, des gens descendent de la tribune, car ils ne peuvent pas se faire entendre. Il y a trop de chahuts. Et même, dans un silence quasi religieux, on imagine très bien qu'à partir du 15e rang, on n'entend plus. Et là, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes sur la capacité oratoire que devaient avoir les orateurs athéniens et Démosthène, passés précisément pour avoir une voix extrêmement puissante, puisque son adversaire, Échine, une fois qu'il a été vaincu par lui, a dit que c'était un lion. Cette image du lion montre la force avec laquelle Démosthène et les orateurs en général, s'ils voulaient se faire entendre, devaient avoir précisément cette voix de centaure, pourrait-on dire.
Mais du coup, cette rhétorique se mêlait à, s'encombrait de, je ne sais pas ce qu'il faut dire, des attaques personnelles d'une violence qui nous est aujourd'hui difficile à connaître. Par exemple, la manière dont Démosthène attaque Échine, dans leur grand affrontement sur la manière dont on doit traiter Philippe, le roi de Macédoine, c'est ça représentatif?
Oui, alors là, on le voit, j'ai encore une fois, ne pas idéaliser le monde athénien, c'est aussi dire à quel point, par exemple, Démosthène traite son ennemi Échine de mots absolument invraisemblables. Il accuse sa mère d'être une prostituée, et de préférence de bas étage, il parle de mariage en plein jour. Ouais. Et il traite son père d'un ancien esclave, affranchi par un autre esclave.
Alors que moi, dit-il, je suis d'une bonne famille.
Alors que moi, non seulement, pendant que toi, tu faisais n'importe quoi quand tu étais enfant, tu balayais, moi, j'étais dans les meilleures écoles. Donc effectivement, je dirais, cette idée d'aspect irénique d'une démocratie athénienne ne tient évidemment pas devant, je dirais, ce type de texte que souvent, les défenseurs à outrance de la démocratie athénienne mettent un peu sous le boisseau.
Ce qui conduit aussi à la question de la représentativité par d'éventuels délégués du peuple qui n'existent pas à l'époque et qui est pourtant aujourd'hui un des éléments constitutifs à nos yeux de la démocratie.
Alors les Athéniens étaient ce qu'on appelle une démocratie directe. C'est une démocratie directe à Athènes. Mais pas si directe que ça tout de même. Parce qu'il y a des représentants. Les Athéniens ont essayé précisément de montrer qu'il n'était pas possible, même, alors qu'ils étaient peut-être 30, 40 000 citoyens, mais ils n'étaient guère présents que 6 000 parfois, et que par conséquent, il n'était pas en plus possible de se réunir en permanence. Les séances de l'Assemblée ont lieu tous les 10 jours. Mais Athènes, ce n'est pas que la ville d'Athènes. C'est aussi toute la campagne qui peut aller jusqu'à 50 kilomètres. Et on imagine les difficultés qu'il y a à venir dans la ville. Et c'est la raison pour laquelle la démocratie directe, c'est souvent à peu près 20% du corps civique. 20%. Alors ça veut dire, si on veut une statistique, qu'il y a une abstention de 80%. Ça fait réfléchir aussi sur l'idée de ce que la démocratie directe est la réponse unique au désamour, au désaveu de nos compatriotes d'aujourd'hui pour l'élection.
Il y a également la question du tirage au sort.
Alors le tirage au sort, il y a un tirage au sort parce que d'une part, il n'existe pas, si vous voulez, de parti politique à Athènes. Il n'y en a pas un qui va défendre des idées socio-économiques très différentes. Il peut y avoir, à certains moments, des différences. On voit par exemple, que faire de Philippe II ? En faire un allié, comme le proposait Échine, ou le traiter en ennemi, comme le propose Démosthène. Mais on ne tire au sort qu'un certain nombre de magistratures. Les magistratures les plus importantes, l'armée par exemple, les stratèges, qui ont aussi un rôle politique, les magistratures financières, ne sont pas tirées au sort. Elles sont réservées à l'élection. Donc c'est pour ça que donner, je dirais, comme exemple, je n'ai rien contre le tirage au sort, c'est pas ça, mais je dirais, utiliser Athènes comme modèle du tirage au sort, c'est méconnaître la réalité athénienne, c'est méconnaître la réalité de la démocratie antique.
Le tirage au sort auquel on a fait appel récemment en France pour parler du climat.
La Convention citoyenne pour le climat, qui est une ébauche de démocratie directe, mais la démocratie directe, je dirais, n'a pas vraiment de sens, au sens strict du terme, je veux dire, dans un État aussi complexe et aussi grand que ne peut être la France, avec 48 millions de citoyens potentiels.
On ramène à la question de la dimension d'Athènes, évidemment, qu'il ne faut jamais oublier, la cité par rapport à nos pays contemporains.
Parce que finalement, tirer au sort une convention citoyenne pour le climat, qu'est-ce que c'est sinon refaire une représentativité ? Finalement, que ce soit tiré au sort ou élection, eh bien, la Convention citoyenne sur le climat montrait qu'on avait besoin d'une représentativité.
Vous parlez d'élection, cela pose aussi la question du contrôle après coup, puisque ces stratèges, ces élus sont très sévèrement scrutés par le peuple et parfois punis. Il y a le cas de ces stratèges qui ont été condamnés à mort dans des conditions que vous pouvez nous rappeler.
Alors, je dirais d'abord qu'il y a deux contrôles. Un contrôle en amont et un contrôle en aval. Il y a un contrôle en amont pour voir, avant d'entrer en charge. Alors, on ne contrôle pas les compétences. Alors ça, les Athéniens ne savent pas ce que c'est qu'une compétence. Pour exactement la compétence, tout le monde l'a. C'est le principe démocratique. La compétence est partagée. Et on leur demande d'ailleurs, est-ce que ton père est citoyen ? Est-ce que ta mère est fille de citoyen ? Est-ce que tu as des cultes familiaux ? Où sont enterrés tes parents ? Enfin, c'est pas vraiment un examen des compétences. Mais il y a, si vous voulez, ensuite, un examen à la sortie de charge. À la sortie de charge, où on voit si il a bien fait son travail pendant un an. Car il ne faut jamais oublier que, tirage au sort ou élection, les magistrats ne sont élus que pour un an. Avec l'impossibilité d'itération quand on est tiré au sort au Parlement, si l'on veut, qui s'appelle la boulée, le Conseil des 500, mais possibilité d'itération pour à l'élection quand on est stratège.
C'est très court. On trouve parfois, certains trouvent que d'avoir réduit le septennat au quinquennat n'est pas sans péril. On en est loin.
C'est loin qu'on peut
dire. Difficile de suivre de longues pensées quand on est là pour un an.
Mais précisément, la démocratie athénienne n'est pas dans cet ordre d'idées, puisque la démocratie athénienne réfléchit sur le corps social. Et que par conséquent, ceux qui vont représenter le corps social, finalement, sont peu intéressants d'un point de vue individuel, parce qu'évidemment, ils ne font que représenter le corps social. Donc en fait, dès lors qu'il n'y a pas d'option politique très nette qui oppose les uns et les autres, tout le monde est favorable à la démocratie, eh bien, il n'y a pas de raison, si vous voulez, d'imaginer une politique menée sur un long terme. Les Athéniens n'ont pas ce type de réflexion. Mais c'est là où je reviens à la question que vous m'avez posée. Entre l'entrée en charge et la sortie de charge, il y avait la possibilité d'être révoqué pendant sa charge. Et on voit l'épisode que vous évoquez qui se passe en 406, où les stratèges athéniens, 6 stratèges athéniens, qui ont pourtant remporté une bataille navale pas très loin de l'île de Lesbos, bataille navale à l'issue de laquelle il y a eu une grande tempête qui a empêché, premièrement, de ramasser les morts, deuxièmement, de sauver des naufragés. Ils ont été mis en accusation, précisément pour ne pas avoir fait ni l'un ni l'autre, et ils ont été condamnés à mort.
Et exécutés. Oui, là, la démocratie devient impitoyable.
Mais la démocratie athénienne est impitoyable.
Il y a un point sur lequel il faut insister, Patrice Brun, c'est le fait que cette démocratie est aussi une démocratie de l'exclusion. C'est-à-dire qu'elle ne peut fonctionner que parce qu'elle le fait d'une minorité qui rejette hors d'elle-même beaucoup de catégories. Il y a les esclaves, par exemple, les métèques aussi, ceux qui sont les étrangers dans la cité, et les femmes.
Alors, il y a effectivement les femmes et les étrangers. Les femmes qui sont exclues complètement du corps politique, même si elles donnent la vie aux futurs citoyens. Mais il faut insister aussi sur les esclaves, parce que les esclaves sont indispensables à une démocratie. Parce que pendant que les citoyens sont à l'Assemblée, où ils sont stratèges, où ils sont membres du Conseil des 500, ben il faut que la boutique tourne. Il faut que le champ soit labouré. Comment fait-on ? Eh bien, on a des esclaves. Et en fait, l'aspect un petit peu étrange, c'est que plus une cité est démocratique, plus l'esclavage y est important. La cité la plus démocratique, indiscutablement, à l'époque classique en Grèce, c'est Athènes. Mais la cité la plus esclavagiste, c'est également Athènes. Et pour cela, ils n'ont pas hésité à faire appel à ce qu'on peut appeler la traite de tous les pays barbares aux alentours.
C'est pourquoi probablement l'idéalisation qu'on constate au XVIIIe et XIXe siècle, notamment au moment de la Révolution, peut paraître manquer de nuances. Je vous donne à entendre un mot de Camille Desmoulins. C'est un article du Vieux Cordelier en janvier 1794, qui est lu ici par Jean-Pierre Leroux, toujours dans les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff. On est en juin 1990. Camille Desmoulins.
Sais-tu ce que c'est qu'un peuple républicain ? Un peuple démocrate ? Je n'en connais qu'un parmi les anciens. Ce n'est point les Romains. À Rome, le peuple ne parlait guère avec liberté que par insurrection, dans la chaleur des factions, au milieu des coups de poing, de chaises, de bâtons, qui tombaient comme grêle autour de la tribune. Mais de véritables républicains, des démocrates permanents, par principe et par instinct, c'étaient les Athéniens. Railleurs et malins, non seulement le peuple d'Athènes permettait de parler et d'écrire, mais on voit, par ce qui nous reste de son théâtre, qu'il n'avait pas de plus grand divertissement que de voir jouer sur la scène ses généraux, ses ministres, ses philosophes, ses comités. Et, ce qui est bien plus fort, de s'y voir jouer lui-même, lit Aristophane, qui faisait des comédies il y a 3000 ans, et tu seras étonné de l'étrange ressemblance d'Athènes et de la France démocrate. Tu y trouveras un père du chêne, comme à Paris, les bonnets et des séances absolument comme les nôtres. Tu y trouveras les principaux personnages du jour, en un mot, une antiquité de 3000 ans dont nous sommes contemporains.
Ressemblance, toujours, autrefois, la Grèce, la France de la Révolution, avec un peu la présence des guignols également, non ?
Absolument. Ce que dit Camille Desmoulins est tout à fait remarquable. C'était un fervent admirateur d'Athènes, par opposition à Saint-Just, qui, lui, avait une vision d'une Sparte idéalisée absolue. Et on a là, effectivement, comme vous le dites, je dirais chez Aristophane, l'impression de lire les guignols de l'info. Et en cela, c'est ça la démocratie aussi. C'est la capacité qu'un peuple a à se moquer de ses dirigeants.
Et là, c'est une continuité. Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais que vous insistiez, Patrice Brun, c'est la compatibilité entre la démocratie et l'impérialisme, qui est également frappante quand on voit le 19e et une partie du 20e siècle.
Eh bien, c'est un petit peu la même chose que pour l'esclavage. On voit qu'Athènes n'a pu vraiment être véritablement démocratique, c'est-à-dire payer pour, par exemple, payer pour les magistratures. Les magistratures sont payées. La participation à l'Assemblée du peuple est également rémunérée.
Une indemnité limitée, mais enfin...
Oui, mais ça permet, si vous voulez, de maintenir, je dirais, un niveau de vie de la journée. Eh bien, tout cela n'a pu se faire...
Comme les jurés dans nos cours d'assises.
Exactement. Cela n'a pu se faire que parce qu'il y avait de l'argent, et cet argent a été pris en grande partie, au 5e siècle tout au moins, sur les alliés. C'est-à-dire que l'impérialisme athénien a nourri la démocratie. Et on voit à quel point, par exemple, l'affaire de Mélos est significative.
C'est-à-dire
En Mélos, en 416, Milo, si l'on veut...
Le lieu de la Vénus.
Le lieu de la Vénus. C'est une île des Cyclades qui refusait d'entrer dans l'alliance athénienne et que les Athéniens ont forcé à y entrer. Et pour ça, ils ont massacré les hommes. Et ils ont réduit en esclavage les femmes et les enfants. L'impérialisme athénien, c'est aussi la démocratie athénienne. Ce sont les mêmes qui applaudissaient Aristophane, qui applaudissaient le théâtre et qui vantaient la démocratie et qui, à côté, ont massacré la population de Mélos. Donc on voit à quel point aussi la démocratie grecque est une démocratie qui, encore une fois, presque par nature est impérialiste. Et puisque vous parlez du 19e siècle, on voit avec la figure de Jules Ferry, par exemple, à quel point la démocratie, l'école obligatoire, laïque, tout ça c'est quand même très gratuit, c'est très important, mais c'est aussi l'expédition du Tonkin. On voit qu'il y a là, effectivement, comme on dirait, une concordance des temps tout à fait étonnante entre l'Athènes du 5e siècle et puis la France, mais pas que la France, je vous rassure, du 19e siècle.
Même si les colonies ont probablement moins rapporté aux puissances coloniales que ce n'était le cas des îles de la Ligue de Délos à Athènes.
Quand on va à Mélos, on se demande quand même ce qu'on pouvait trouver à Mélos. C'était pas une île extraordinairement riche. Enfin, c'est une histoire de puissance.
Mais le grec, ça a été aussi, la langue grecque, je veux dire, un marqueur social. Cette langue grecque à laquelle Andrea Marcolongo a consacré ce si beau livre qui s'appelle « La langue géniale », le grec, 9 bonnes raisons d'aimer. Ce grec est à la fois une source d'épanouissement, la langue grecque apprise et affichée comme une connaissance, et en même temps un marqueur social. Vous le montrez assez bien. Au fond, on peut déjà remonter à Molière, aux femmes savantes, dans ce moment fameux où Dadius et Trissotin s'expriment sur le grec. Vous reconnaîtrez en passant la voix de Michel Bouquet dans le rôle de Trissotin, ce très grand comédien que nous venons malheureusement de perdre.
En vous le produisant, je ne crains point de blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits.
La main qui le présente en dit assez le prix.
Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France.
Du grec au ciel, du grec. Il sait du grec, ma sœur.
Oh, ma nièce, du grec.
Du grec, quelle douceur.
Quoi, monsieur, c'est du grec. Oh, permettez le grâce, que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse.
Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec.
J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect.
Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelques doctes entretiens.
Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien.
Vous défendez, Patrice Brun, dans votre livre, l'idée que la connaissance du grec demeure un marqueur social et culturel dans notre société. C'est un peu vrai, et en même temps, on peut en débattre.
Disons que c'est un marqueur social, mais il l'est moins qu'il ne l'était auparavant. Auparavant, les grandes études se faisaient avec du latin et du grec et menaient à peu près à toutes les professions. Maintenant, il est devenu un marqueur culturel, un peu moins social peut-être, mais un marqueur culturel très fort, puisque le fait de connaître le grec passe aux yeux de gens qui sont peut-être un peu moins informés pour une marque de haute culture, et parfois même où il y a une confusion entre culture et intelligence, pour une preuve d'intelligence, ce contre quoi je me bats assez régulièrement, parce que je ne considère pas que la connaissance du grec est en soi une marque spécifique d'intelligence.
Et puis on ne peut pas ne pas penser à la dédicace que Jules Vallès a faite pour le bachelier, nous en avions parlé un jour dans une émission, à tous ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. Alors je voudrais pour finir que nous évoquions l'utilisation de la Grèce, nous parlons toujours du bon usage de la Grèce antique, dans les conflits du 19e siècle. L'opposition Sparte-Athènes se retrouve de l'opposition des Montagnards et des Girondins, toujours au moment de la Révolution française, et puis l'opposition entre la France et l'Allemagne, la France-Athènes, l'Allemagne-Sparte est également visible. Glotz, qui était un grand historien dans la première partie du 20e siècle, historien de la Grèce, était lui-même, c'est pas un hasard, originaire de l'Alsace perdue dans la guerre 70.
Tout à fait. Et là, on voit bien autour de Glotz comment, je dirais, l'idéalisation d'Athènes s'est mise en place, avec en regard une idéalisation de Sparte du côté allemand. En fait, Glotz défendait moins Athènes que la démocratie parlementaire française, et la science allemande défendait moins Sparte, puis Philippe de Macédoine, que la monarchie allemande, l'unité de l'Allemagne, et l'unité, je dirais, d'un empire qui était devenu agressif et militariste. Pour le coup, il y avait une concordance des temps absolue entre ces deux pays, si bien qu'on peut parler vraiment d'une position française d'un côté et d'une position allemande de l'autre. Il y a plusieurs ouvrages comme ça qui dénotent, je pense notamment un livre d'Helmut Burwe écrit en 1940 sur Sparte, où il parle de Hitlerjugend, par exemple.
Ah, c'est le nazisme.
Le nazisme. Alors, on voit à quel point cette vision, je dirais, d'une Sparte idéale a pollué en grande partie, je dirais, la science allemande durant, on va dire, des années 1880 à 1945.
Vous croyez ce défaut plus grave que celui de l'idéalisation que vous évoquez du côté français d'Athènes?
Bien plus grave, parce qu'il a mené, je dirais, de grands philologues et grands historiens allemands, non seulement à dire n'importe quoi, mais à sombrer dans une sorte de racisme, vraiment absolument. Hein. Plusieurs revues philologiques sont devenues de véritables revues racistes au sens premier du terme, où on faisait l'éloge de la race aryenne.
Alors sur une permanence, allons conclure cette émission ainsi, Patrice Brun, sur la permanence d'une certaine idée idéalisée en France de la démocratie grecque, et en même temps puisant dans ses enseignements. C'était vrai déjà de Giscard d'Estaing qui disait, pour pousser l'entrée de la Grèce dans l'ensemble européen, qui disait « Platon est en Europe ». Et pour finir, je vais vous faire écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron, président de la République, à la PNIX, toujours l'endroit où était Malraux déjà, à Athènes, le 7 septembre 2017. Et vous allez voir, il parle en grec. Il l'a probablement appris au lycée.
« Ya afto, ephraristo, serma, tin kifernisi, ketis elinikes, achies, ala idikotera, ton prosipurgo, Alexis Tsipras. Pour me calesser, namiliso apoedo. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si je dois prendre vos applaudissements comme un soulagement que je m'arrête de parler en grec ou un remerciement de cet essai. Puisque c'est ici que fut inventée la forme moderne de l'État, ici que cette cité d'Athènes construisit patiemment par la souveraineté du peuple, la souveraineté de son destin. Nous devons nous demander sans complaisance. Qu'avons-nous fait, nous, Européens, de notre souveraineté? Puisque c'est ici que fut pris le risque de cette démocratie qui confie au peuple le gouvernement du peuple et considère que le plus grand nombre, c'est mieux que le petit nombre, et dicter une loi respectable. Interrogeons-nous. Qu'avons-nous fait, nous, de la démocratie?
Du bon usage de la Grèce antique, c'était le titre de cette émission. Patrice Brun, on n'a pas quitté cette question.
Bien, on voit d'ailleurs dans ce discours d'Emmanuel Macron à quel point les Grecs et nous, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que finalement, on a un peu l'impression que chaque fois que nous serons amenés à parler de politique, nous aurons comme référence première les propos et les écrits des Grecs sur le sujet. En cela, même si un certain nombre de points du discours d'Emmanuel Macron peuvent être discutés, est discutable pour certains.
Il choisit ses grands hommes.
Il choisit ses grands hommes. Mais c'est surtout, il donne l'image, effectivement. Lorsque je disais qu'on arrive en Grèce toujours un petit peu sur les fantômes du passé, bien on voit que finalement, ces fantômes du passé sont extraordinairement présents pour nous, pour les hommes politiques. Ils sont également extraordinairement présents pour les Grecs d'aujourd'hui. Il est extrêmement difficile peut-être d'être grec aujourd'hui sans penser au passé qui fut le leur.
Et après tout, il est notable que le grec est la seule langue qui reste vivante et qui remonte à cette période antique. Toutes les autres ont disparu, sont devenues mortes.
C'est la plus ancienne, et dans les traces écrites. Je ne parle pas des traces orales, là c'est plus difficile à montrer, mais les traces écrites, effectivement, on a un recul de plus de 3500 ans. C'est considérable.
On peut comprendre encore le grec ancien avec le grec actuel, ou en tout cas le contraire.
Les propos d'Emmanuel Macron sont en grec moderne, là. Sont en grec moderne avec, les hésitations qui sont dues au fait qu'il ne parle pas la langue. Enfin, qui peut lui en vouloir? Mais effectivement, il y a la langue est allée vers plus de simplification, bien entendu. Mais c'est la même. C'est la même langue, c'est le même alphabet qu'utilisait Démosthène, qu'utilisait Platon, qu'utilisait Thucydide.
Une dernière observation concerne le fait qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis, un certain nombre d'universitaires considèrent au nom de la cancel culture, la culture de l'effacement, qu'il ne faut plus apprendre le grec, car ce serait rendre hommage à une société sexiste, raciste, etc.
Oui, suprématiste, blanche et tout. Bon, que répondre à ça? C'est extraordinairement compliqué à débattre avec ce type d'argument qui ne tient évidemment pas d'un point de vue historique, puisque ça matérialise tout à fait ce qu'on disait au début. La différence entre la possibilité de faire la concordance des temps et l'anachronisme le plus obtus.
Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Patrice Brun. Votre livre s'intitule « L'invention de la Grèce » et paru tout récemment chez Odile Jacob. Nous avons évoqué, chemin faisant, les travaux de Vincent Azoulay et Paulin Ismar. Il y a une génération de jeunes spécialistes de l'histoire grecque qui est tout à fait remarquable, et ceux-ci en font partie. Leur livre sur Athènes en 403, au moment que vous avez évoqué, où la démocratie bouscule le système dictatorial qui s'est mis en place pendant un an. Là aussi, il peut y avoir des actualités qui sont encourageantes. Toutes les dictatures ne durent pas toujours.
La démocratie est forte.
Athènes 403, une histoire chorale, c'est leur livre chez Flammarion. Le livre de Andrea Marcolongo, qui était un grand succès, significatif et finalement...
Et surprenant.
Et rassérénant, s'appelle « La langue géniale, 9 bonnes raisons d'aimer le grec ».
L'optimisme fait du bien lorsqu'on parle des études classiques.
J'avais envie que nous terminions de la sorte notre bibliographie, non sans rappeler aussi la qualité du livre de Christophe Onodibio qui s'appelle « La Minute Antique ». Quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque, c'est un effort constant de concordance des temps aux éditions de l'Observatoire, extrêmement stimulant. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec la prise de son Andreas Jaffré, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Arnaud Plançon pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.